pendant qu'on écoute la dérobade, eh ben on n'est pas devant la télé. Vous me direz, ça marche aussi avec Netflix. Vérifié pendant le confinement, ça se confirme en déconfinant parmi les séries plébiscitées autour de la planète et au box-office. Si je vous dis La Servante Écarlate, ou dans la langue de Big Brother, The Handmaid's Tale, imaginez sans trop vous forcer les États-Unis virés facho en mode XXXXL, à mort les homosexuels, les prêtres cathos, les déficients mentaux. Quant aux femmes, vu ce qu'il leur est réservé, c'est à se demander s'ils ne voudraient pas mieux leur refiler la tombe, série culte et un bouquin récemment sorti qui va avec, ses Babette Marcenac à la médiathèque du Marsan qui nous parle de tout cela.
Donc à l'origine de La Servante Écarlate, il y a le roman de Margaret Atwood qui est paru dans les années 80. Pour la petite histoire, en fait, c'est un livre qu'elle a écrit à une époque où elle vivait à Berlin-Ouest. Donc époque rideau de fer. Ouais. Je trouve que c'est intéressant d'avoir,
oui, il y a des résonances.
D'avoir cette info-là lorsqu'on se replonge dans cet univers-là aujourd'hui. Succès fulgurant, des millions de livres vendus, des thèses écrites sur le livre. Donc en résumé, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore La Servante Écarlate, de quoi ça parle ? La Servante Écarlate, donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui est soumise à la dictature de Gilead. Gilead, c'est un régime théocratique qui s'est construit en fait sur le déclin de la fertilité. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce régime ? Eh bien, on va dire que c'est un régime où il ne fait pas très bon être femme. Ouais. Hein. On peut résumer les femmes à trois catégories. Les épouses, donc, qui sont les épouses en fait des dignitaires du régime. Alors ça peut paraître la position la plus enviable, mais en fait au fur et à mesure on se rend compte que finalement c'est pas si terrible que ça non plus. On a les Martas qui sont des sortes d'intendantes qui gèrent un petit peu toutes les maisonnées. Et enfin nous avons les fameuses servantes. Alors là pour le coup les servantes, j'ai envie de dire pas de bol. Mmh. Ce sont des jeunes femmes qui ont le malheur d'être fertiles. Donc dans une époque où le déclin de la fertilité est quand même un vrai problème, puisque les quelques enfants qui naissent meurent. Donc ces femmes-là, elles, ont le malheur d'avoir déjà porté des enfants et des grossesses à terme. Donc en fait, elles vont être employées par Gilead pour perpétrer, on va dire, la civilisation au cours de cérémonies extrêmement ritualisées, sous couvert de religion aussi, mais on ne peut pas appeler ça différemment, ce sont des viols. Des viols, on va dire, légaux dans ce régime.
Qu'est-ce qui fait, selon vous, qui êtes une fidèle de la série, une inconditionnelle, le carton de cette série, c'est...
En fait, je pense qu'il y a tout un contexte. Alors déjà, donc Margaret Atwood, c'est quand même une plume très 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 importante de la littérature canadienne. Donc le roman est connu et il se trouve que la série est sortie aussi au moment où Donald Trump a été élu président des États-Unis. Et il y a eu une espèce de caisse de résonance entre la série et finalement les premiers coups de boutoir portés à certains droits des femmes dans certains États américains. Mmh. Hein, le droit à l'avortement a quand même fortement remis en cause et la servante a été brandie comme un étendard dans pas mal de manifestations anti-Trump par les féministes américaines. Donc il y a eu un contexte social et politique qui a remis le livre mais aussi du coup la série sur le devant de la scène et de façon très justifiée parce que ce qui est assez flippant en fait lorsqu'on regarde cette série ou lorsqu'on relit le livre, on se dit que c'est extrêmement réaliste,
ouais.
On se dit que ça pourrait arriver. Puisqu'en fait, tout le principe du roman de Margaret Atwood, c'est de fonctionner par flashback. Donc, on suit l'héroïne, donc Defred, alors parce qu'on lui supprime même son prénom. Hein. Defred, c'est le nom que lui donne le régime de Gilead. Son prénom, c'est June. June, avant d'être prisonnière de ce système, bah, elle a eu une vie, elle a eu un amoureux, elle a eu un enfant. Donc, son enfant lui a été retiré. C'était quelqu'un qui travaillait, qui avait une vie tout à fait normale, qui fumait, qui faisait la fête. Enfin voilà, une vie normale. Et ce qu'on voit très très bien, et qui est très très bien montré aussi dans la série, c'est comment petit à petit, en fait, ses droits les plus élémentaires lui sont retirés. Donc ça va du fait de pouvoir travailler, ça va du fait d'avoir droit à une contraception sans l'autorisation de son conjoint. En fait, tout ça, finalement, petit à petit, est renié aux femmes. Et la mise en scène de la série est extrêmement soignée, léchée. Il y a une qualité de la photo qui est absolument ébouriffante. Il y a une vraie esthétique, mais c'est un vrai parti pris. Les réalisateurs vous diraient qu'en fait, pour dénoncer en fait, le côté absolument abominable de ce qui se passe, il faut effectivement quelque chose d'esthétique. Quand je vous parlais du viol tout à l'heure, ce sont des cérémonies très très ritualisées, très très codifiées. Finalement, lorsque c'est mis en scène, on ne voit pas, enfin c'est pas un viol, alors je pense à une scène de viol très très marquante dans un film qui était Irréversible, on n'est pas du tout là-dedans, c'est quelque chose de très froid, très très clinique, qui rend finalement la chose presque encore plus insupportable. Et moi, à titre perso, qui suis capable, lorsqu'une série me plaît, de regarder 3, 4, 5 épisodes à la suite, là, je ne peux pas, je ne peux regarder qu'un épisode à la fois, parce qu'il faut le digérer.
Donc, The Handmaid's Tale, on le rappelle, pour celles et ceux, les rares qui ne connaîtraient pas encore, pour les autres qui découvriraient, qui aimaient, je ne sais pas, on peut dire Huxley, Bradbury, Orwell, bien sûr, 1984, on est vraiment là-dedans. Et donc, il y a autour du succès phénoménal de cette série, des œuvres, diverses œuvres complémentaires, dont cet ouvrage.
Donc cet ouvrage, donc, c'est vraiment donc, l'album officiel de la série, ça revient vraiment sur la jeunesse de la série. Donc vous avez un entretien avec Margaret Atwood qui a activement participé à l'écriture du scénario, elle a été assez présente. Elle fait d'ailleurs une figuration dans l'épisode pilote de la série. Donc on décortique allègrement les décors principaux de la série, donc la maison du commandant Waterford. Elle existe vraiment, elle est utilisée pour son décor extérieur, le reste est reconstitué en studio. On apprend aussi que pour... il y a plein de petites anecdotes comme ça dans le bouquin. Le jardin et la serre, en fait, ont été complètement réaménagés par la production. La serre n'existait pas dans la maison originale, mais du coup, la production a construit pour les propriétaires une serre.
C'est cadeau,
donc c'est plutôt sympa. Donc tout est vraiment complètement décortiqué. Certaines scènes sont totalement découpées, analysées. Il y a évidemment une part belle faite au costume et à certains détails. C'est donc ça. Effectivement, on nous explique, ne serait-ce que le choix du rouge de la robe, donc toute la recherche qui a été faite pour trouver le bon rouge. Des petits détails, le petit filet à provision utilisé par les servantes pour faire les courses, pourquoi il est en tissu récupérable, parce que Gilead a finalement un côté très très écolo. Il recycle, mais aussi ce petit filet à provision, il est transparent. On ne peut rien y cacher puisque c'est de la maille transparente, donc tout ce qui est à l'intérieur se voit. Donc on ne peut rien cacher dans ce filet et tout ça est volontaire. Donc tout ça, il y a plein de choses comme ça. Alors il y a un petit détail rigolo aussi, une des principales, Rita, en fait, a écrit sa thèse universitaire sur le rôle des Martha dans Gilead. Donc il y a bien des années de ça, donc on ne pouvait pas trouver finalement actrice mieux placée pour jouer le rôle. Vous avez donc, comme je vous le disais, des scènes qui sont décortiquées, l'explication des effets spéciaux, parce que quand on voit la série, on ne se rend pas forcément compte en fait du boulot de travail sur l'image qu'il y a derrière, mais en fait il y a plein d'effets spéciaux qui sont utilisés, donc il y a les storyboards, enfin il y a plein de choses. C'est une mine. Alors par contre, moi ce que je vous conseille, il y a même des scènes entières qui sont complètement décortiqué. Ce que je vous conseille par contre, c'est si vous n'avez pas vu la série, c'est de commencer d'abord par regarder la série et ensuite de mettre le nez dans le livre, parce qu'il y a quand même pas mal d'indications et de choses qui pourraient vous divulgâcher le plaisir de la découverte. Donc série effectivement importante, moi j'ai envie de dire essentielle, à réserver quand même à un public qui est prêt à s'accrocher aux branches.
Oui.
Parce que
c'est terrifiant.
C'est un visionnage dont on ne sort pas indemne.
Et même une page qui est consacrée d'ailleurs à la bande originale.
Magnifique aussi.
On va retrouver Kate Bush parmi les nombreux titres extraits de la bande originale de The Handmaid's Tale, La Servante Écarlate, il y a la série, et donc ce bouquin complémentaire.
Je rajoute également donc, que vous pourrez évidemment trouver à la médiathèque donc, les saisons 1 et 2 en DVD. Je pense que Fred est sur le coup pour l'acquisition de la saison 3, sinon on va le taper pour qu'il l'achète. Et vous avez également donc, les romans, donc La Servante Écarlate, la suite qui a été écrite par Margaret Atwood en 2019, Les Testaments, et ainsi donc que cet ouvrage, L'art et le making-of de La Servante Écarlate. Would need it special.
Un monde.